J'enchaîne directement peut-être sur la suite. C'est toujours intéressant de voir qu'on fait des lectures séparées, mais qui vont se retrouver sur bien des points. Donc c'est toujours intéressant. Donc, je vous remercie pour cette invitation à venir discuter l'ouvrage de Violaine Girard. Alors, on a eu l'occasion de se croiser très rapidement à Rouen il y a quelques années. Et puis je suis évidemment ses travaux, puisqu'ils sont sur cet objet commun hein, que nous travaillons par bien des côtés, je pense quand même, en partageant un certain nombre... sinon de certitude, au moins d'interrogation sur la manière dont on peut le travailler, parce que c'est un peu ce dont je vais parler aussi dans le cadre de cette discussion. Non pas qu'il s'agisse d'un objet, alors moi je vais traiter du vote FN parce que effectivement c'est l'objet sur lequel je travaille et parce qu'il est quand même présent dans l'ouvrage, quoi qu'on dise. C'est pas que c'est un objet plus difficile qu'un autre, et avec le recul, je le crois pas finalement, les conditions d'accès au terrain, la réalisation d'entretiens avec des électeurs du Front National, la visibilité de cette préférence électorale sur les territoires sur lesquels nous avons travaillé, particulièrement les miens, moi je travaille sur le territoire du Vaucluse. Bon, rendre cet objet accessible, saisissable au moins, dès lors qu'on ne se contente pas de protocoles d'enquête quantitatifs. Alors là, je fais référence notamment à une dernière enquête qu'on a menée l'année dernière sur les élections présidentielles et la réalisation de questionnaires à la sortie des bureaux de vote, qui rendent particulièrement difficile l'accès à cette préférence électorale. Donc je pense que justement les protocoles d'enquête qui ont été mis en place dans l'ouvrage de Violaine, aussi dans les travaux que moi j'ai pu mener, dans des protocoles d'enquête beaucoup plus qualitatifs, longitudinaux, assez poussés, sont la clé d'entrée sur ces terrains, là où les enquêtes quantitatives sont effectivement beaucoup plus limitées dans la capacité à saisir ce vote déclaré, notamment à la sortie des bureaux de vote, puisque ça reste une permanence, il est très largement sous-représenté dans les échantillons sur lesquels on peut travailler en analyse sociologie politique, on va dire. Donc c'est un objet qui n'est pas plus difficile qu'un autre, mais qui est, à mon avis, davantage secondaire que ce que l'on veut bien le laisser croire. Et ça rejoint ce qui vient d'être dit. Hein. Je pense que c'est là le cœur des difficultés quand on travaille sur ce sujet. C'est qu'en dépit de sa centralité politico-médiatique, hein, le vote FN est un objet secondaire. On pourrait dire dérivé, en fait, d'autres comportements ou d'autres processus sociaux, autrement plus significatifs, autrement plus profonds, mais aussi beaucoup plus ancien, qu'il faut patiemment reconstruire pour prétendre comprendre quelque chose de cette préférence électorale. Et peut-être que si les chercheurs en sciences sociales doivent tenir fermement une position, c'est sans doute celle-là. Hein. Le vote FN n'est pas important en lui-même. Il ne mérite pas l'attention médiatique qu'on lui accorde et qu'on accorde à ses dirigeants également. Il n'est pas le cœur de la vie politique française. Il en est une des manifestations, certes présentes, intenses ces dernières années. Mais c'est sans doute pas la plus essentielle si on regarde un peu notamment les records atteints lors des derniers scrutins par l'abstention, qui est un phénomène autrement plus préoccupant sans doute que le vote Front National. Alors on m'a sollicité pour intervenir dans ce séminaire parce que j'ai publié un ouvrage sur le vote FN quelques mois avant la sortie de celui de Violaine. Et dans la conclusion de mon livre, moi je qualifie le vote FN d'épiphénomène, hein, c'est-à-dire un phénomène secondaire, donc on est bien sur la même logique, hein, un phénomène dérivé, qui impose, à la manière de ce que l'a remarquablement fait Violaine, je pense, de l'analyser sans le regarder en premier. Et c'est à mes yeux le principal apport de l'ouvrage dont il est question aujourd'hui, que de ne pas envisager le vote Front National comme un point d'entrée. Le cœur de l'ouvrage étant bien les trajectoires des ménages populaires du périurbain, tel que c'est annoncé sur la couverture. Et là, je félicite Violaine parce qu'elle est parvenue à imposer ce sous-titre sur la première page du livre, ce que moi, je n'ai pas réussi à faire, parce que bon, quand on regarde le titre de son ouvrage, c'est le vote FN au village, le titre de mon ouvrage, c'est le vote FN. Donc évidemment, des stratégies éditoriales qu'on ne maîtrise que très partiellement. Les ouvrages sont sortis pour le mien fin février 2017, celui de Violaine avril 2017, donc inutile de vous dire qu'il fallait qu'ils sortent à ce moment-là, évidemment, et que c'était nécessaire. Et c'est vrai que bon, moi j'avais un sous-titre qui est pour une sociologie localisée des électorats frontistes, que je n'ai pas réussi à imposer sur la première page, qu'on m'a fait mettre en page intérieure, parce que le mot sociologie, visiblement, ça fait peur, et il ne faut pas l'afficher dans une stratégie de diffusion des ouvrages. Donc, au-delà de tout ça, hein, et ce qui est très bien dit dans l'ouvrage, hein, ce vote FN, et plus particulièrement la propension à se définir par l'appartenance nationale, ne provient pas de nulle part, pas plus qu'elle ne serait naturelle chez les catégories populaires, elle découle au contraire des conditions de travail et d'existence, c'est ce qui est dit à la page 275 de l'ouvrage. Donc le vote FN ne vient pas de nulle part, hein. Ce n'est pas une espèce de mauvais sort jeté à notre société, et c'est un préalable qui me semble effectivement nécessaire de rappeler pour essayer de mieux l'analyser. Alors, compte tenu de ce caractère secondaire, bah voilà, c'est effectivement la question des titres, hein, des ouvrages, qui fait question quand même, parce que, effectivement, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre pour dire sans arrêt, attention, c'est pas ce qu'il faut regarder pour essayer de comprendre ce qui se joue dans notre société, bah c'est finalement ce qu'on nous impose. Et aujourd'hui, la séance du séminaire, elle est autour du vote FN, et ça fait un peu plus de 2 heures qu'on dit que finalement, regarde, en parler. Mais en fait, on a fait qu'en parler, et je pense que c'est essentiel de le présenter comme ça. Alors, cette manière d'envisager secondairement le Front National, et d'ailleurs, hein, comme Violaine le souligne, et elle l'explique assez nettement, un moyen d'atteindre aussi les électeurs qui votent pour ce parti. Donc c'est dit plusieurs fois, hein, mais notamment le travail sur les élus, que moi j'ai moins fait, hein, mais c'est vrai que le rapport avec des élus qui vont finalement raconter le fait qu'ils votent Front National de manière peut-être pas systématique, mais parfois occasionnelle, selon les scrutins, etc., c'est des choses effectivement qui sont difficiles à saisir. Si on entre directement par le vote FN, ça l'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile quand effectivement on l'aborde par d'autres aspects. Et là, l'intérêt pour les questions d'urbanisme notamment, qui crée une espèce de rapport aux enquêtés qui permet ensuite d'aller davantage sur les choix politiques. Alors, c'est de ce point de vue-là, je trouve que les deux profils qui sont décrits dans le dernier chapitre sont particulièrement intéressants. Les profils des responsables politiques, l'un socialisé à l'extrême gauche avec un père PC-CGTiste et l'autre électeur régulier de la droite classique, qui sont adjoints et maires de la même commune, sont des profils qui témoignent à l'évidence, hein, de la diversité des processus de rapprochement avec cette préférence politique. On aura l'occasion d'y revenir, puisque je parlerai un petit peu du vote FN quand même. Alors je pense que la formation justement de sociologue de Violaine lui a sans doute permis d'interroger des processus que moi j'ai laissé de côté. C'est pour ça que je trouve que l'ouvrage est très riche en fait de ce point de vue-là, et notamment voilà, de ne pas rentrer par les rapports aux politiques. Deuxième apport de cet ouvrage, il me semble justement, c'est d'étudier les rapports aux politiques dans leurs composantes locales. Hein. Le chapitre 6 s'intitule « Un peuplement au-dessus de tout soupçon, les stratégies municipales de préservation d'un entre-soi blanc ». Autrement dit, qu'est-ce qui favorise, du point de vue des politiques publiques, l'essor du Front National aussi, ou comment les électeurs ne font que suivre, hein, ce que Violaine appelle un racisme en acte qui s'incarne dans des actions concrètes à l'échelle municipale. Et je pense que c'est tout à fait essentiel justement d'aller regarder très précisément ce qu'il se joue, y compris dans les politiques publiques locales, pour mesurer, hein, comment cela peut provoquer à terme aussi un rapprochement avec cette préférence politique. Donc Violaine met à jour les catégorisations informelles qui sont mises en vigueur dans la conduite des politiques publiques municipales, par exemple en matière d'attribution des logements, qui contribue à découper la réalité, hein, comme ça a été très bien dit, en différents groupes sociaux, hein, les stables, les précaires, les blancs, les immigrés. Catégorisation informelle qui trouve à exister dans un cadre institutionnel qui les autorise, qui leur donne existence, et qui donne existence aussi à des dynamiques collectives qui vont recouvrir des enjeux matériels, économiques, très concrets pour les catégories qui ont été analysées dans cet ouvrage. Alors, les échelles choisies ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Violaine a travaillé essentiellement sur une commune, un canton, moi davantage sur un département, hein, le Vaucluse. Mais cette approche-là fait écho au chapitre 1 de mon livre, hein, qui propose de comprendre le vote FN en l'analysant localement. Donc on est bien sur la même logique et sur la même dynamique. C'est le pari d'analyse microscopique, hein, que l'on fait là dans ce type de travaux, en essayant de suivre les recommandations notamment de Frédéric Sadiki sur cette question, dans un article, hein, sur les politistes et le microscope, effectivement, dans un ouvrage consacré aux méthodes de sciences sociales. Et il me semble que là, le pari est réussi, hein, très clairement dans l'ouvrage de Violaine. Et c'est vrai que ça permet d'offrir la possibilité de démarches comparatives entre plusieurs terrains locaux, hein, celui sur lequel j'ai travaillé moi et celui sur lequel Violaine a travaillé, pour essayer de questionner les approches un peu globalisantes du vote Front National sur deux points que moi je mentionne dans le chapitre de mon ouvrage et que Violaine reprend dans son travail également. Donc, preuve qu'on avait quand même des interrogations qui étaient assez communes. Premier point, c'est le fait que le FN s'est duré majoritairement les classes populaires et qui est au cœur de l'ouvrage de Violaine. Hein. On n'est pas en train de dire que les classes populaires votent pas pour le Front National, mais on réinterroge ces processus et l'hétérogénéité aussi de ce soutien. Et puis la résistance que représente le niveau de diplôme au vote Front National, qui est régulièrement avancé et que Violaine interroge en questionnant la centralité de la distance au capital culturel, qui éloigne les ménages populaires stables de la gauche. Gauche qui, on peut le dire, hein, clairement, a renoncé sur un certain nombre de questions. L'actualité est ici assez riche d'exemples. Là, si on regarde les réformes en cours, hein, je pense qu'il y a des démissions, effectivement, des partis de gauche aussi sur des questions centrales, celle de l'éducation, évidemment, celle du travail aussi, l'éducation. Je pense à la réforme récente de la mise en place de Parcoursup, là, à laquelle on est confronté dans l'enseignement supérieur, et qui, encore une fois, marque une démission très claire sur ces questions d'éducation, et qui risque effectivement d'accroître la distance d'une partie des catégories populaires encore au capital culturel, et donc accroître les processus qui sont décrits dans l'ouvrage. Alors cette approche localisée déborde le politique pour s'intéresser de manière très pertinente, il me semble aussi, aux stratégies des groupes industriels, aux logiques de localisation des pôles d'activité à la périphérie des villes, qui sont, comme le souligne Violaine, très rarement interrogés. C'est des commentaires sur lesquels on a, enfin, c'est des sujets sur lesquels on a très peu de commentaires dans l'actualité médiatique, dès qu'on réfléchit à ces logiques aussi de rapprochement avec le Front National. Troisième apport majeur de l'ouvrage, me semble-t-il, l'étude approfondie des conditions d'emploi et de travail, qui conservent un rôle central dans la formation des rapports aux politiques, comme ça a été rappelé par Violaine. Évidemment, on gagnerait à creuser cette piste pour analyser les sous-groupes de l'électorat FN, qu'il faut cesser de penser comme un électorat homogène, évidemment. Et c'est pour ma part une des voies que j'ai empruntées, justement, pour analyser cette réduction de l'écart entre le vote des femmes et le vote des hommes pour le Front National. Je me suis intéressée plus particulièrement aux électrices qui déclaraient effectivement ce vote Front National à la sortie des bureaux de vote, donc l'année dernière, lors des scrutins de la présidentielle. Et effectivement, ce vote est déclaré majoritairement par des personnes qui travaillent, essentiellement, qui sont aussi celles qui se rendent le plus fréquemment au bureau de vote, mais dont les conditions de travail se sont durcies, particulièrement dans les franges féminines de la population, et notamment les populations employées. C'est là qu'on retrouve les préférences Front National, les mieux déclarées aussi à la sortie des bureaux de vote, ce qui ne remet pas en cause, évidemment, les taux d'abstention exponentiels dans ces catégories. On aura l'occasion d'y revenir. Parallèlement, on en a parlé, c'est aussi le recul de la présence syndicale qui est mis en évidence dans l'ouvrage de Violaine, dans plusieurs partie de ce travail, et qui analyse ce que la dissolution des collectifs de travail, des collectifs syndicaux, mais aussi des collectifs familiaux, et là je trouve que la complémentarité entre nos travaux est assez significative. Qu'est-ce que ça explique, cette dissolution de la droitisation des préférences électorales? Alors il y a pas mal de citations d'entretien, c'est dommage parce qu'on n'a pas le temps de revenir, mais il y a beaucoup d'extraits d'entretien dans l'ouvrage, très riches en fait sur la manière dont effectivement les individus se positionnent par rapport à la politique, et il y a des éléments de compréhension de cette droitisation et des moyens d'y remédier, sans doute, dont les responsables politiques pourraient aussi se saisir et méditer pour justement essayer de contrer cette préférence FN en utilisant les bons moyens pour la contrer, plutôt que des dénonciations qui marchent assez peu, finalement, dans la réalité. Alors, Violaine ajoute sur cette question de cette perte d'influence de la présence syndicale, l'expérience prolongée de l'isolement au travail qui n'est pas pour rien dans l'identification à une catégorie sociale, celle des nationaux, évidemment, qui est toujours forgée indépendamment du statut social et professionnel. Elle y revient dans le dernier chapitre comme élément fondamental du progressif rapprochement dont on a parlé tout à l'heure. Alors je voulais préalablement identifier ces trois apports majeurs avant de faire ce qui m'a été demandé pour cette séance, c'est-à-dire réfléchir aux apports croisés tant en termes de résultats, mais aussi de démarches méthodologiques des deux ouvrages, tous les deux donc publiés à partir de nos matériaux de thèse, donc ça c'est intéressant, à plusieurs années de distance de la soutenance de la thèse, je tiens à le rappeler, ce qui peut donner de l'espoir à beaucoup de monde, et suite à la récolte de nouveaux matériaux, puisque Violaine a refait une enquête en 2012, moi j'ai également fait un retour sur mon terrain de thèse en 2010, puis à nouveau une enquête en 2013. Donc deux études localisées du vote FN, dont la mise en parallèle me semble assez intéressante, et qui, si on croit peut-être un peu à l'utilité des sciences sociales, pourrait permettre de réinjecter dans certains commentaires quotidiens sur la supposée progression du parti Front National un certain nombre d'éléments qui permettraient de l'analyser. Alors sur les méthodologies, rapidement, sont relativement proches. De mon côté, une 15 ans d'enquête par entretien conduite auprès d'une soixantaine d'électeurs, d'électrices FN, inégalement suivie, mais pour une quinzaine réinterrogées à 10 ans d'intervalle, et pour une d'entre elles, la poursuite d'une enquête biographique, tout cela complété par, par une nouvelle enquête pour rafraîchir l'échantillon en 2013, parce qu'on nous expliquait qu'il y avait des nouveaux électeurs marinistes. Donc je me suis dit, il faut aller les voir quand même, les rencontrer, voir à quoi ils ressemblent. Donc une quinzaine de nouvelles rencontres avec des électeurs. Et puis des observations prolongées des lieux de socialisation militante, analyse croisée des résultats du Front National et des enquêtes de l'INSEE aussi sur ces différents scrutins. Pour Violaine, une enquête débutée en 2003, donc on est quand même sur des temporalités relativement longues, et je pense que c'est très important pour saisir effectivement les processus. Plusieurs séjours sur le terrain en 2012, une cinquantaine d'entretiens avec des habitants de la commune étudiés, une vingtaine avec des responsables politiques. Je rappelle tout ça parce que je trouve que c'est quand même très important de souligner comment ces ouvrages sont aussi le fruit d'un travail conséquent en termes d'observation aussi lors des manifestations municipales, jours de scrutin, discussions informelles, consultations d'archives, exploitation localisée des recensements de l'INSEE. Peut-être que ça pouvait être un petit peu plus précisé dans l'ouvrage. J'avoue que j'ai été un petit peu frustrée par le fait qu'il n'y ait pas d'encadré méthodologique aussi sur ça dans l'ouvrage, parce qu'effectivement, il y a quand même des matériaux très riches et peut-être dans la formation aussi de chercheurs, c'est intéressant de savoir sur quels matériaux on a travaillé, comment on les a travaillés. Comment on s'est aussi débrouillé avec des matériaux aussi conséquents, parce que c'est pas le tout d'aller chercher des matériaux, il faut aussi pouvoir les analyser. Donc là, j'avoue que j'étais un petit peu frustrée, peut-être, dans l'ouvrage, de ne pas avoir plus de précision là-dessus. En tout cas, autant de matériaux qui permettent de reconstituer les contextes dans lesquels les individus produisent des choix électoraux. Des contextes qui ne se réduisent pas à l'environnement territorialisé. C'est évidemment le voisinage, c'est évidemment le quartier, c'est évidemment la maisonnée dans laquelle les individus évoluent, mais c'est aussi l'inscription dans des trajectoires sociales, leur insertion dans divers groupes primaires, porteurs de valeurs, de normes, mais aussi de rôles endossés à l'intérieur des collectifs, de positions relatives, de relations d'affection, de proximité avec certaines personnes aussi, qui vont faire que l'on partage, qu'on suit, ou qu'on s'oppose à certaines personnes aussi dans les choix politiques et dans la production d'un vote Front National. Donc, au-delà de cette dimension méthodologique, je passe rapidement là-dessus. La première chose que je voudrais souligner, donc, c'est la complémentarité de nos travaux en ce qui concerne d'abord les éclairages concernant plus explicitement le rapport aux politiques des votants Front National. Moi, je me suis tournée vers ce qui, dans l'intime, particulièrement au sein du groupe primaire familial, peut venir soutenir la préférence FN. Une préférence FN qui n'est pas nécessairement constante, qui est souvent ponctuelle, voire occasionnelle. J'ai travaillé sur ce qui se joue aussi dans les transactions politiques à l'intérieur du couple. Qu'est-ce qui se joue dans le couple et qui explique qu'on vote aussi comme son mari, comme son conjoint, comme son épouse. Violaine, elle, s'est tournée plutôt vers les mécanismes sociaux, publics, économiques, qui accompagne, voire qui encourage cet affichage politique, dont on voit quand même qu'il se fait souvent en famille et qu'il se fait souvent en couple aussi. Donc on voit la circularité aussi de ces réassurances quotidiennes, permanentes, autour aussi des choix politiques. Donc ces deux approches qui permettent d'opérer la déconnexion, il me semble, entre vote et rapport informé aux politiques, qui ne sont absolument pas une évidence. Là, je reprends l'exemple du vote pour le maire en place, qui est cité dans un des extraits de l'ouvrage. Il y a deux conjoints qui discutent et je crois que c'est l'épouse ou le mari, je ne sais plus, qui dit « mais il n'est pas sans étiquette, Roger ». Non, non, Roger, il est très bien, on l'aime bien. Donc la question de l'étiquette politique, elle ne fait pas question, on ne se la pose même pas. Et ça en dit très long sur les modes de production de l'opinion politique, davantage inscrit dans un ethos, alors de classe ou pas de classe, on pourra en reparler, mais plus que dans la mise en place, en tout cas, d'une quelconque compétence politique qu'on ferait jouer quand on décide de voter pour tel ou tel parti. Alors sur ce rapport aux politiques, qui rejoint... D'ailleurs, cette idée que le choix FN n'est pas premier, il n'est pas premier non plus chez les électeurs qui le choisissent, et je pense que c'est important de le dire. Ces deux études localisées différentes permettent de faire ressortir qu'il faut avoir en tête l'importance de ces votes sans illusion avant de s'intéresser aux tendances à l'œuvre dans les urnes. J'ai moi-même un chapitre dans mon ouvrage qui s'intitule « Un vote sans illusion », et c'est je parle bien du vote Front National, particulièrement chez les plus jeunes électeurs pour lesquels le vote FN n'exclut en aucun cas ni la méfiance, ni la défiance à l'égard du Front National et de Marine Le Pen. Nous montrons conjointement combien les électeurs rencontrés dans nos enquêtes, qu'ils votent ou non pour le Front National, mais il est sans doute encore plus important de le rappeler pour les électeurs FN, parce qu'on présente souvent ce parti comme un parti en capacité de séduire les déçus. Donc ces électeurs expriment le sentiment diffus que la politique ne changera pas leur vie. Et même s'ils votent pour le Front National, ils n'ont pas d'illusion sur le fait que ce parti est en capacité, davantage que les autres, à transformer leur quotidien. Donc la défiance n'empêche pas le vote, quand il se joue dans celui-ci bien d'autres choses qu'un rapport aux politiques qui n'est pas essentiel souvent dans la production de cet acte électoral. Alors ces autres choses qui se jouent dans le vote, elles ne se réduisent d'ailleurs pas au racisme, hein, qui n'est pas non plus au cœur des discours. Alors comme le souligne Violaine, effectivement, ce n'est pas un mobile électoral uniformément partagé par les ménages populaires. S'il est le vecteur de certaines formes de connivence ou de réassurance quotidienne, des liens qui unissent au groupe de référence et qui est largement porté localement par des responsables politiques dont on doit quand même interroger un petit peu la responsabilité en la matière, on pourra y revenir, hein. Il ne dit pas tout de ce qui se joue dans le vote FN. Le racisme, c'est un paravent, c'est pas une explication en soi. C'est un moyen d'occulter d'autres préoccupations beaucoup plus concrètes pour les individus rencontrés, hein, Violaine le dit à la page 228, l'occultation par la prédominance des thèmes de l'insécurité et de l'immigration comme raison supposée du vote des catégories populaires pour le FN, des préoccupations autrement plus centrales pour ces dernières que sont les conditions de logement, les conditions d'emploi, l'avenir des retraites, la centralité de la valeur travail dont on a parlé aussi, et dont moi j'ai pu analyser la prégnance effectivement chez les plus jeunes électeurs qui entendent se distinguer de ceux qui ne font rien, des assistés, de ceux qui profitent des bourses à l'université notamment. C'est un discours qui revient de manière assez régulière. Autre élément, c'est au poids des socialisations aussi dans la production de l'acte électoral que les deux ouvrages consacrent une part essentielle de leur développement. Et ça me semble tout à fait essentiel de le rappeler à l'heure où on nous explique que les votes se font sur les communications politiques, la popularité d'un candidat, la personnalité d'un candidat. Effectivement, il y a un poids évident des socialisations la production du vote. Socialisation que l'on peut regarder du côté de l'intime, encore une fois, ou du côté du social, hein, socialisation familiale à l'intérieur des groupes, mais aussi socialisation professionnelle, et qui, effectivement, font apparaître de manière assez nette comment il y a une influence de la socialisation qui fait que se maintiennent, alors ce que Violaine appelle des barrières morales, ce que j'appelle, moi, des verrous moraux, qui sont très largement forgés par les socialisations politiques, syndicales, mais aussi les éléments du capital culturel qui expliquent que certains éléments, que certains individus ne franchissent pas le pas du vote FN en dépit de fortes tentations qui sont les mêmes en fait. Les discours sont sensiblement les mêmes. On retrouve des discours identiques et vous avez des gens qui votent pour le Front National et d'autres qui ne vont pas voter pour ce parti parce qu'il y a des verrous qui fonctionnent et qui font qu'effectivement, ils ne franchissent pas ce pas-là. Alors moi, lors des dernières élections, j'ai multiplié les entretiens avec des électeurs républicains. Alors inutile de vous dire que dans le Vaucluse, hein, la frontière entre les électeurs républicains et les électeurs du Front National n'est pas toujours très évidente à saisir. Et j'ai pu remarquer comment ces verrous moraux ont pu céder à l'occasion notamment du deuxième tour de la présidentielle, quand les individus se trouvent aux prises avec ce qu'on appelle des pressions contradictoires, hein, c'est-à-dire effectivement des tentations fortes de voter pour le Front National, et puis voilà, des choses qui font qu'on ne va pas voter, puis finalement on va voter pour ce parti. Quand il y a un rappel à la norme civique qui est très fort, dans des groupes notamment d'électeurs assez âgés, c'est des gens pour lesquels il n'est pas envisageable de voter blanc, il n'est pas envisageable de ne pas voter. Des électeurs républicains qui ne voulaient pas voter Macron parce qu'effectivement il y avait trop de proximité avec le Parti Socialiste et avec la gauche et qui ont fini par voter Front National sans être convaincus par le discours de Marine Le Pen et le programme, en étant très critique sur sa prestation au débat, en ayant dit plusieurs fois dans les entretiens que j'avais pu faire préalablement qu'il ne ferait jamais le choix du Front National, et qui finalement ont voté Front National au deuxième tour, parce qu'à un moment donné, l'injonction à voter est la plus forte, et que là, on se retrouve avec des pressions qui sont effectivement assez importantes, et que les électeurs gèrent dans le temps très court de l'élection. Voilà, donc il y a à la fois ce qui relève effectivement aussi du contexte électoral très particulier, hein, qu'on a pu connaître l'année dernière. Alors effectivement, je pense que c'est important de travailler aussi sur cette question de la défiance, parce que cette défiance, elle est évidemment présente chez les catégories populaires, mais elle est partagée aussi par nombre d'électeurs. Là, je reviens notamment sur les travaux de Daniel Gaxi, hein, qui est décrit dans le chapitre sur l'essence du vote, hein, sur cette question de la défiance, qui fait que c'est pas parce qu'on fait un choix que ce choix nous satisfait. Il y a beaucoup de gens qui continuent à voter et puis qui ne sont pas du tout convaincus du choix qu'ils ont pu faire. Et effectivement, chez ceux qui se rendent aux urnes encore aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a quand même de moins en moins, la défiance prédomine, et pas seulement chez les catégories populaires. La déception à l'égard des partis politiques classiques est évidemment très importante. Et comme le dit Violaine, elle précède souvent l'intérêt qu'on va porter au Front National, un peu par défaut, un peu par dépit, un peu aussi parce qu'on a tout essayé et que finalement, on se dit qu'il y a peut-être là une solution. Donc, d'ailleurs, je trouve que la phrase que tu écris à la page 243, « Ces attitudes de l'indifférence au désintérêt, puis à la défiance, sont sans doute plus répandues et tout aussi significatives que les conversions aux thèses de l'extrême droite, dont on nous explique souvent qu'elles seraient un facteur explicatif des scores du Front National. » Donc, une diversité des comportements électoraux, des significations conférées au vote, qui sont largement aussi développées dans le chapitre 7, de ce qui se joue dans ce choix politique et dans le choix Front National, on se rend compte en fait que par ce choix, on se rapproche ou on s'éloigne le moins possible de ce qui constitue une éthique de comportement, la respectabilité dont tu parles aussi dans le chapitre 6, les valeurs prônées par les fractions établies, la stabilité familiale, la prévoyance, l'ascétisme, autant de valeurs qu'on défend et dont on peut trouver une expression dans le choix du vote FN. Alors concernant plus spécifiquement la centralité de la socialisation à droite, dans l'expression de la préférence FN, moi j'étais ravie de retrouver ça aussi, parce qu'effectivement je pensais que c'était très propre à mon terrain. Mais là je me rends compte aussi que sur le territoire qui est étudié, la précarité n'explique pas tout, et que l'usage du bulletin frontiste est aussi le fait d'une socialisation à droite marquée souvent, qui joue un rôle incontournable dans cette orientation politique. Et on retrouve cette socialisation sur des territoires qui sont marqués par une présence ouvrière forte. Bon, là, on a cité les travaux de Patrick Lehen, mais effectivement, ce mythe de l'ouvrier qui vote à gauche et qui a été largement construit, il a largement occulté le fait qu'une partie des ouvriers vote effectivement à droite et qu'il y a des traditions, des socialisations aussi à droite du côté de ces catégories-là. Et aujourd'hui, le Front National est un parti d'extrême droite, on est à peu près tous d'accord là-dessus, en tout cas parmi les spécialistes, qui joue sa survie à droite de l'échiquier politique. L'actualité du week-end le souligne s'il en était besoin. Cela ne signifie pas qu'il n'attire pas des électeurs qui viennent effectivement des rangs de la gauche, mais il ne les attire pas parce qu'ils porteraient des valeurs de gauche, mais plutôt parce qu'effectivement, encore une fois, la gauche a abandonné sans doute des terrains aussi qu'elle investissait par le passé, notamment celui du travail, qui est au cœur de l'ouvrage de Violaine, et aussi de l'éducation. Dernier élément également, c'est la question de l'abstention des classes populaires. Alors tu l'as rapidement évoqué à la fin de ta présentation, mais je pense que c'est central, effectivement, et tu le remets assez salutairement au cœur du sujet en posant la question suivante. Comment parler du comportement politique des classes populaires sans tenir compte de l'abstention, effectivement? Comment ignorer l'attention oblique et distanciée à la vie politique des classes populaires, qui n'est d'ailleurs pas que le fait des classes populaires? Là, je renvoie dans vos travaux de Kevin Jay sur les rapports aux politiques des classes supérieures, dont on voit qu'elles ont aussi une attention parfois très oblique à la politique, même si c'est moins évident. Effectivement, la stabilisation sociale, dont l'accession à la propriété procure l'assurance nécessaire à la participation, est nécessaire à l'existence du vote FN. Ça paraît une évidence de le dire, mais les gens qui votent FN aujourd'hui sont des gens qui votent. Et ça reste des gens qui votent. Et ce ne sont pas des exclus, ce ne sont pas des oubliés, ce ne sont pas des sans-voix qui, effectivement, expriment là un désarroi. Ce sont des gens qui se saisissent du vote pour exprimer quelque chose, là où d'autres s'excluent des processus électoraux et s'excluent encore aujourd'hui pour la majorité, si on regarde un peu les dernières élections, du fait de processus sociaux de disqualification, de délégitimation qui font que les catégories les plus fragilisées, les plus précaires sont aussi celles aujourd'hui qui s'abstiennent le plus et qui effectivement ne se retrouvent pas dans ce vote Front National ou de manière parfois très, très intermittente. Alors sur les performances aussi, toujours par rapport à cette abstention, j'ai été ravie de constater que les scores du FN sur le canton de Varieux dont tu parles sont à peu près les mêmes que les scores que j'observe moi sur le canton d'Orange dans le Nord Vaucluse, donc où le FN est réélu de manière systématique depuis maintenant 20 ans. Mais une progression qui est quand même loin d'être linéaire et qui témoigne de l'intermittence aussi du bulletin FN sur le canton de Varieux. On se rend compte que la désaffection à l'égard du PS est très forte, mais que la figure de l'élu local résiste encore un peu. Bon, nous, le Nord Vaucluse, il a été totalement abandonné au Front National, dans une stratégie évidente de délégation de ces territoires par la droite et par la gauche. Et effectivement, on se rend compte que le FN fait des petits scores, de tout petits scores. Quand on a effectivement enlevé l'abstention, quand on regarde le nombre de votants qu'il mobilise, oui, on vote un petit peu plus pour le Front National, mais ça reste quand même très, très peu significatif en termes de nombre de voix. Voilà. Alors bon, je termine rapidement là-dessus. Juste quelques questions peut-être ou remarques sur lesquelles tu pourras réagir en plus ouais. de... Voilà, mais... Sur Première chose, hein, le scepticisme à l'égard de la capacité des hommes politiques à changer la donne, qui est aussi le fait des classes populaires stables. Ma question, c'est est-ce que ça produit finalement du vote FN, là où ça produit de l'abstention chez les plus précaires? Est-ce que finalement le scepticisme a deux effets différents sur ces deux sous-fractions, on va dire, des classes populaires? Je sais pas, j'ai pas la réponse, peut-être que tu l'as. Moi, sur la question de l'anonymisation, quand même, le fait que tu as anonymisé l'ensemble des territoires dont tout le monde a compris, je pense, ici, de quel territoire il s'agissait, mieux que moi qui ne suis pas d'ici. Je me demande si finalement la description précise de processus tels qu'ils sont faits dans ton ouvrage, hein, qui relève de l'investigation scientifique sur la longue période, n'autorise pas un peu les chercheurs en sciences sociales à interpeller aussi les responsables politiques. S'il y a une autorité de la science, elle est peut-être là. Moi, je me suis posé la question de l'anonymisation dans mon ouvrage. Je n'ai pas anonymisé du tout. J'ai donné le nom des responsables politiques de manière très clairement. D'abord parce que ce sont des responsables publics et qui prennent des positions publiques. Et après tout, je trouve qu'on a peut-être un rôle d'interpellation aussi. Et parce que les élus locaux sont aussi à l'abri de cette défiance générale un peu des citoyens à l'égard de la politique, alors qu'ils ont une responsabilité aussi dans la banalisation, comme tu le montres, hein, du vote FN dans le cours ordinaire de la vie politique locale, parce que dans les réunions, dans les discussions informelles, de manière tout à fait ils vont dans le sens aussi de discours qui sont très proches aussi des discours de l'extrême droite, et ça pose la question quand même de la banalisation de ces discours et du fait que les gens s'autorisent à dire des choses aujourd'hui qu'ils ne s'autorisaient pas à dire par le passé. Donc voilà, je pense que ça permettrait peut-être d'interroger cette circularité aussi de la réassurance FN, c'est-à-dire les gens qui votent FN et qui se rassurent de voter FN parce qu'on entend des discours qui finalement vont dans ce sens-là, et qui en plus participent aussi de la espèce de musique aussi médiatique, hein, qui va aussi dans ce sens-là. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Voilà. Après, j'avais... si on a le temps, on y reviendra. Deux autres remarques, mais je te laisse la parole. Merci.
Ouais, du coup, j'essaie de prendre pas trop de temps pour voir aussi des. Merci pour ces deux lectures. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment appréciable. Hein. C'est vraiment très chouette d'avoir toutes ces retours, ces lectures. Peut-être quand même, alors, du coup, c'est vrai que ça se rejoint, vos deux retours se rejoignent sur le fait de la position, comme tu dis, Christelle, secondaire. Ou le fait que voilà, ce qui est le plus important dans l'ouvrage, c'est peut-être pas finalement de comprendre pourquoi des gens votent FN à un moment donné, mais d'avoir aussi en tête toutes ces transformations des catégories populaires qui se jouent là. Moi, j'avais vraiment en tête, j'avais quand même l'idée d'éviter cette fin. J'avais envie de me saisir quand même, disons qu'il m'a fallu du temps pour avoir le courage de me saisir de cette question sociologique, de travailler sur des catégories populaires qui vivent dans le périurbain et qui votent FN. Parce qu'il y avait vraiment cette idée de « je ne peux pas reproduire, je ne voulais pas reproduire cette association assez étroite de « voilà, ils habitent en pavillon individuel, les pauvres, ils ont du mal à joindre les deux bouts parce que leurs crédits sont importants donc ils votent FN ». Donc j'avais du mal à me sortir un peu de cette association-là, et puis j'avais en tête, on l'a pas dit peut-être, mais l'ouvrage d'Annie Colleval, hein, sur les catégories populaires sont pas forcément celles qui votent proportionnellement le plus pour le FN, d'abord parce que ce sont celles qui s'abstiennent le plus. Donc j'avais vraiment l'idée d'aller voir ces processus, d'où voilà. Et puis quelque chose qu'on peut dire aussi, c'est que souvent ce que les journalistes font, c'est d'avoir envie d'aller voir Madame, je sais pas comment on pourra l'appeler, Madame Lambda et Monsieur Bidule, pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils votent FN. Et il y a l'idée, en accumulant des matériaux de terrain, en accumulant des entretiens, en travaillant pas uniquement auprès des électeurs du FN, mais enfin voilà, il y a eu cette idée aussi de replacer ça dans un contexte, dans un ensemble des possibles, en termes d'attitude, de rapport aux politiques, de pratiques électorales, pour le mettre en perspective. Et du coup, c'est aussi... ça renvoie aux dernières questions que tu as posées, c'est-à-dire le scepticisme ou à des choses que tu as relevées. Moi, j'avais par exemple une enquêtée qui est employée dans un foyer d'accueil, foyer d'accueil de migrants et foyer d'accueil de travailleurs précaires, qui m'a tenu très souvent des discours extrêmement stigmatisants vis-à-vis des bénéficiaires des aides sociales, vis-à-vis des familles de réfugiés, etc. Et qui, en même temps, n'a jamais passé le pas de voter FN. parce qu'elle avait une socialisation politique familiale à gauche, alors que d'autres personnes ont pu me dire avoir voté FN, alors qu'ils tenaient des discours beaucoup moins durs ou beaucoup moins rigides sur ces questions-là. Et puis, présence aussi chez certains habitants de forme d'étonnement un peu naïf, qui rejoignait le mien d'ailleurs, mais des fois, voilà, des gens qui me disaient, mais comment ça se fait que moi, enfin voilà, un jeune ouvrier qui a fait construire sa maison peu de temps auparavant, qui me dit, moi, je ne vais pas voter, de toute façon, il n'a pas fait son changement d'inscription sur les listes électorales, et il me dit, je ne comprends pas pourquoi dans la commune, les gens votent autant pour le Front National, il n'y a pas d'immigrés ici, ou il n'y a pas de musulmans, il me dit, voilà. Donc, il y avait aussi l'idée, enfin, c'est vrai que cet ouvrage, c'est beaucoup construit contre, pas forcément pour approfondir des, enfin aussi pour approfondir des questionnements sociologiques, mais beaucoup contre des, je sais pas si toi c'est pareil, contre des, enfin un énervement sur un certain nombre de discours qu'on a dans les médias. Et par exemple, ce discours de, c'est pour ça que j'avais mis dans le PowerPoint l'extrait du journal Le Monde en 2017. Dans les zones pavillonnaires où de plus en plus d'immigrés accèdent à la propriété, les autres ménages votent FN. Et un extrait d'entretien avec quelqu'un que la journaliste était allée voir qui dit « Oh là là, mon voisin, il est d'origine immigrée, il a une plus belle voiture que moi. » Donc, des formes comme ça, dans les thèses de Guilly, c'est extrêmement clair, c'est quand les gens ont connu la vie dans les banlieues, ils ne peuvent pas faire autre chose que voter FN. Donc, ils ont fui dans le périurbain et donc ils continuent de voter FN dans le périurbain et ils sont les oubliés. Et donc, du coup, j'avais envie aussi de montrer qu'il y avait des enjeux matériels extrêmement précis, extrêmement concrets, qu'il n'y avait pas juste des luttes symboliques, qu'il y avait aussi des enjeux de contrôle d'un certain type de ressources rares, qui sont par exemple l'accès au foncier pour faire construire des maisons ou l'accès aux informations concernant le marché immobilier. Et tout ça passait par des élus locaux. Et donc, pas uniquement, pas, enfin voilà, que j'avais dit une phrase, j'étais contente quand je l'avais trouvée dans l'ouvrage, que le vote FN n'était pas forcément la manière première d'exprimer refus de certaines catégories, enfin refus de voisiner avec certaines catégories sociales. Voilà, donc du coup, c'était beaucoup de choses qui m'amenaient à relativiser ou en tout cas à replacer le vote FN par rapport à d'autres phénomènes, d'autres processus sociaux. C'est-à-dire qu'y compris des gens qui votent à gauche, quelqu'un, je me souviens, qui m'a dit qu'il allait voter pour Mélenchon parce qu'il a été militant notamment à la CGT, lorsqu'il travaillait dans une grande usine, etc. Eh bien, c'était un employé municipal, un élu municipal, ce qui n'est absolument pas gêné de côtoyer des élus municipaux qui votaient FN et de faire bénéficier certains jeunes de la commune qu'il connaissait de l'accès à des terrains, donc de réserver l'accès à un certain nombre de terrains constructibles à des ménages ayant un certain type de profil. Et personne n'y voyait discrimination. Donc tout ça pour dire que voilà, il y avait l'idée de replacer, enfin de dédiaboliser aussi finalement d'une certaine manière, même si c'est quelque chose que je n'ai pas dit explicitement dans l'ouvrage, ce vote FN, en montrant qu'il y avait des gens qui ne votent pas FN qui peuvent aussi participer à une mise à distance de catégories stigmatisées, et à l'inverse, que la stigmatisation verbale de catégories précarisées ou racisées ne conduit pas automatiquement vers le vote FN. Du coup, sur cette question de l'anonymisation, c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à... Disons que je me suis dit que les élus que je rencontrais, j'ai parlé du vote FN. Alors, j'ai compris tardivement qu'un de mes enquêtés principales était un électeur, plus ou moins, quand même assez régulier du vote FN. Bon, voilà, je pense que ça renvoie à des formes et de naïveté au début de l'enquête, et puis ensuite de difficulté à se saisir de front de cet objet-là, quoi. J'avais pas envie de travailler sur ça. Puis finalement, j'ai dit, bon, faut quand même le faire. Et ça avait un intérêt de le faire, mais voilà. Voilà, du coup, j'avais pas... En fait, au fur et à mesure de l'enquête, je posais des questions de plus en plus de plus en plus liées aux attitudes politiques, etc., dans les entretiens, sauf que j'ai jamais affiché... J'ai entretenu le flou et j'ai jamais dit que j'allais travailler sur le vote FN. Et par ailleurs, donc voilà, c'est le titre de l'ouvrage, mais l'ouvrage ne s'y réduit pas. Donc j'ai joué de cette ambiguïté. Et ces élus locaux, j'ai un peu l'impression de... très souvent, ils stigmatisaient les discours des médias, etc. Et j'avais pas envie de Enfin, ne pas respecter l'anonymat, ça reviendrait aussi à. Enfin voilà, je sais que le maire, il m'a raconté plein d'anecdotes où il me disait, voilà, je suis pas du tout content de ce qui est ressorti dans le Progrès. Le journaliste a encore déformé mes propos. Il avait une fois comme ça une forme de grande défiance à l'égard de. Alors à la fois lui, certaines difficultés à s'exprimer en public et une défiance vis-à-vis de ceux qui maîtrisent comme ça, qui restituent la parole des élus, etc. Et du coup, effectivement que. Alors, j'aurais peut-être eu moins de mal à désanonymiser le conseiller général et actuel député, d'ailleurs, de ce territoire-là. Sauf que, de toute façon, avec sa particule, enfin voilà, on peut le retrouver. Hein. Mais les élus, c'est vrai que les élus de la commune, les élus locaux, je me suis dit, c'est pas des professionnels, la politique. C'est... En 2008, j'avais fait beaucoup de terrain sur des conflits lors des municipales. Je ne l'ai pas repris dans l'ouvrage. Je les avais analysés dans la thèse comme un peu des conflits autour du capital culturel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient un peu plus de capital culturel qui ont essayé de prendre la position des élus, qui eux sont des techniciens dans l'industrie. Et du coup, j'avais pas envie que lors de futures élections municipales, des détracteurs de ces élus-là puissent par exemple se saisir. Enfin, voilà. Et je me dis, en fait, l'anonymisation. Le but, c'est pas vraiment que personne ne reconnaisse le territoire, mais le but, c'est aussi que si on cherche quelque chose sur ce territoire-là, on tombe pas sur l'ouvrage directement, sur Internet. Voilà, si on cherche quelque chose sur. Ou si quelqu'un veut chercher à porter préjudice à un des enquêtés, qui cherche des données sur cette enquêtée, il peut pas se saisir du livre, ou en tout cas, il tombera pas forcément sur le livre. Faut pas se leurrer que c'est pas non plus un ouvrage qui aura eu un retentissement tel que les gens tombent dessus. Donc j'ai escamoté, il y a la question de l'anonymisation et il y a aussi la question du retour aux enquêtés que j'ai pas mal escamoté. Enfin, du coup, c'est pour moi la question la plus délicate, c'est aussi le retour aux enquêtés. Qui est pas facile à faire, qui est pas simple du tout et qui est pas enfin voilà, qui est pas une question aisé et que du coup j'ai choisi de pas mener quoi. Mmh. C'est plus là que je suis plus gênée, c'est-à-dire que j'ai pas restitué les enquêtés.